Bon matin, mesdames, messieurs. Nous sommes mercredi, le 14 juillet, déjà milieu de la semaine. Bonjour, Elisabeth Hubert.
Bonjour, Annette.
On parlait de tricotage.
Oui.
Elle me dit avant d'entrer en onde, devine ce que j'ai fait hier.
T'as tricoté des guenilles,
des lavettes. Hey, j'en ai fait déjà beaucoup, beaucoup. Puis là, c'est ce que je disais, Elisabeth, pour vous mettre dans le contexte de notre parlage, comme on dit, je me souviens plus comment faire. Mais je sais qu'il y avait les instructions dans un petit paquet, hein, c'est ça?
Oui, il va falloir qu'on s'y mette. Là,
ben, c'est ça. À un moment donné, t'amèneras tes enfants, puis on tricotera ensemble entre deux chansons. C'est l'heure des infos. Travaux de démolition au 147 boulevard Desjardins-Maniwaki.
Oui, au courant des derniers jours, des travaux de démolition ont eu lieu au 147 boulevard Desjardins de Maniwaki. Le bâtiment locatif qui avait été dévasté lors d'un incendie majeur dans la nuit de la fête du Canada. Alain Mercier, propriétaire de l'immeuble, ne sait toujours pas ce que sera l'avenir de ce terrain qui a accueilli les entreprises des Val-Gatineau au fil des années. Ce dernier estime que la situation deviendra plus claire au courant des prochaines semaines, alors que plusieurs dossiers devraient se régler avec les assureurs. Louis-Philippe Langevin, directeur administratif du cabinet Langevin-Grondin CPA Incorporé, assure que l'entreprise tente déjà de remettre sur pied. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'incendie a chaboulé l'équipe en entièreté. On l'écoute.
L'entreprise est là depuis plus de 30 ans. François Langevin, c'est lui qui a fondé le cabinet là, puis qu'au fil des années, ça s'est développé. Ça fait plus de 30 ans que le cabinet est là. Alors, c'est sûr que les gens ont pris ça, c'est les employés, eux autres aussi, c'est un choc. Du jour au lendemain, tu pars la veille, tu vois ton bureau, tu reviens le lendemain, il n'y a plus rien. Ça a été assez tough. Il y a eu pas mal d'émotions cette journée.
Deux entreprises connues de la vallée de la Gatineau se retrouvaient dans ces logements, soit la clinique médico-esthétique Lange Institut ainsi que le bureau de comptable Langevin-Grondin CPA. Plusieurs personnes se sont également retrouvées sans logement à la suite de l'incendie. L'édifice a été déclaré de perte totale et les dommages s'évaluent à environ 600 000 $.
Et oui, tellement surprise. Ça faisait un petit bout, je n'avais pas passé sur le boulevard quand j'ai vu tout ça. J'ai dit, oh mon Dieu Seigneur, oui, c'est vrai que ça fait longtemps que cet édifice-là est là. Maintenant, la Maison de la famille, centre de pédiatrie sociale, a atteint ses objectifs malgré la pandémie.
Oui, comme plusieurs organismes, la Maison de la famille, centre de pédiatrie sociale Vallée de la Gatineau, a dû s'ajuster avec la pandémie dans la dernière année. Le confinement et le soutien à distance ont causé une diminution d'une centaine d'inscriptions officielles, portant le compte à 183 familles et 319 enfants. Le plus grand défi en période de COVID-19 fut la conciliation travail-famille pour les ressources humaines. Malgré la pandémie, la Maison de la famille Centre de pédiatrie sociale Vallée de la Gatineau compte 5 grandes réussites, comme le mentionne la directrice générale, Joëlle Martel.
Malgré la pandémie, on a obtenu notre certification niveau 1 de la Fondation du Dr Julien pour le volet pédiatrie sociale. On a acheté notre deuxième maison. On a fait notre première guignolée des médecins qui a amassé un peu plus de 28 000 $. Notre participation au panier de Noël avec la table de développement social. Puis un autre bon coup qu'on a mis, c'est la cour extérieure. On est en train de finaliser le tout là, avec certaines compagnie pour l'aménagement. On a terminé la halle de garderie au sous-sol qui était prévue pour dans 3 ans.
La santé financière de l'organisme est excellente. Celle-ci a été en mesure de bénéficier de plusieurs financements gouvernementaux mis en place en raison de la pandémie. L'année se termine avec un surplus budgétaire et l'agenda de la prochaine année sera tout aussi rempli, comme précisé par la directrice générale.
On a en tête 5 objectifs aussi, dont l'ouverture du point de service de Gracefield. On veut créer une programmation en partenariat avec Famille d'abord pour s'assurer qu'on offre une complémentarité, qu'on répond aux besoins des familles du Sud. On est en train de mettre sur pied aussi avec le comité de gestion de la pédiatrie sociale le projet Sport dehors, qui est un projet plein air. On veut aussi procéder à l'ouverture d'un centre périnatal. Puis notre dernier point à travailler cette année, c'est qu'on veut vraiment s'asseoir pour travailler notre planification stratégique.
La maison acquise par l'organisme pour offrir le service aux municipalités du Sud est située sur la rue Saint-Joseph à Gracefield, près du terrain de soccer et du parc municipal. Le surplus financier servira à procéder à l'embauche de nouveaux employés.
On va aussi être en embauche pour cette nouvelle maison-là. Fait qu'on va là, cette semaine afficher 4 postes qui vont être destinés à la maison de Gracefield. En tout, on va afficher 7 postes cette semaine pour combler les besoins du Sud, mais aussi certains besoins pour Maniwaki aussi. À la recherche d'un responsable de l'accueil, d'une éducatrice pour la halte garderie, d'une animatrice qui va aller à domicile, une animatrice, puis on va avoir un poste de TES, un poste de psycho-éducateur, puis un remplacement d'animatrice là, pour tout le volet périnatal.
L'ouverture officielle du point de service à Gracefield s'effectuera le 10 septembre à 10 h. Les invitations se feront par l'entremise des réseaux sociaux.
Maintenant, Elisabeth, en terminant, arrêt de procédure là, dans un dossier d'attouchement et d'agression sexuelle sur une personne mineure.
Le nouveau procès d'un homme de Montserre-Fléthune accusé d'attouchement et d'agression sexuelle sur une personne âgée de moins de 14 ans a été annulé. Une ordonnance de non-publication figure au dossier, ce qui empêche la divulgation de certaines informations. La requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable a été acceptée. Il y a eu un délai de 7 ans et 3 mois pour le premier procès. En plus du délai de l'appel, plus de 11 ans se sont écoulés après le dépôt des accusations, ce qui cause un préjudice important à l'accusé, même si la gravité de l'infraction est réelle. Le juge a justifié sa décision en déclarant que le droit du requérant d'être jugé dans un délai raisonnable a été violé et a ordonné l'arrêt des procédures dans le dossier. Rappelons que les actes auraient été commis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007. Le procès a débuté le 7 mai 2015 devant le juge Lapointe. Au mois d'octobre 2015, ce dernier s'est retiré du dossier pour cause de maladie. Le 1er juin 2016, le procès s'est poursuivi avec le juge Chevalier. Une décision devait être rendue le 30 mars 2017, mais le juge n'a pas rendu de décision en raison de maladie. Le procès a repris le 16 juin 2017 devant le juge Chevalier. Le 1er septembre 2017, il a été déclaré l'accusé coupable des deux chefs d'accusation et le 23 février 2018, une peine de 3 ans d'emprisonnement lui a été octroyée. Cependant, le 4 juin 2020, la Cour a accepté de porter la cause en appel et a ordonné un nouveau procès. La demande de requête en arrêt des procédures a été fixée le 31 mai et le 1er juin 2021.
Et voilà, Elisabeth, c'est complété. On se retrouve à 9h30. Bonne journée. Oui, bye-bye.